Bonsoir à chacun. Bonsoir. Ah, j'ai cru que vous dormiez déjà. Ça serait bien dommage parce que quand on partage la parole de Dieu, c'est tellement important d'être attentif. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas n'importe quel livre, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais commencer avec ce psaume, le psaume chapitre 13 et le verset 4. C'est un verset que j'aime beaucoup, qui m'a particulièrement touché la première fois que je l'ai lu, et toutes les fois que je le lis, d'ailleurs, il me touche encore autant, parce que c'est une prière de David. Juste avant, dans les premiers versets de ce psaume 13, on voit qu'il y a beaucoup de questions qu'il pose à Dieu, et des questions sur la durée des épreuves. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Psaume 13. Et le verset 4, regardez l'attitude de cet homme, simplement. Qui dit, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et je répète cette phrase. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Un autre passage qui va correspondre, ce sera dans Jonas. Juste un verset, vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas chapitre 1, verset 6, un autre texte d'introduction, où c'est qu'il y a une question qui doit nous interpeller ce soir. Jonas chapitre 1 et le verset 6. Vous savez que Jonas entend la voix de Dieu qui lui demande d'aller à Ninive et il prend la direction opposée de ce que Dieu lui demande et... Quand il prend le bateau pour s'enfuir, Dieu envoie une tempête à cause de cette désobéissance. Et à un moment donné, pendant la tempête, Jonas fait quelque chose d'incroyable quand même. Alors qu'il y a une tempête, des vagues insurmontables, des ténèbres, des éclairs, il va dormir au fond du bateau. Et au verset 6, il est dit, « Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Allons maintenant dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, le verset 39. La situation est totalement différente. Il s'agit de Jésus et de ses disciples. Et c'est le moment où Jésus est sur la montagne des Oliviers. Luc, chapitre 22, verset 39. Vous y êtes? Pas encore? J'entends les pages tourner. Verset 39. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué le point de correspondance, la coïncidence forcée, puisque c'est moi qui l'ai choisi, de ces différents passages. Mais c'est vraiment une question qui est remontée dans mon cœur au fur et à mesure que je passais du temps pour chercher la pensée de Dieu. Cette question qui est celle-ci, pourquoi dors-tu? Ou pourquoi dormez-vous? Et avant de pouvoir... répondre à cette question, il faut bien comprendre la question. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut bien comprendre ce que le Seigneur veut dire au travers de cette question. Il y a, plus précisément, je vais essayer de préciser la chose, parce qu'on pourrait vite tomber dans une extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire que, est-ce que le repos que je prends en ce moment, les temps que Dieu me permet d'avoir et qui sont des temps de repos, est-ce qu'ils sont dus à la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'ils sont dus à ma négligence et à ma paresse? Vous voyez les deux aspects qui se dressent devant nous. Parce que la Bible est pleine de passages, on va le voir tout à l'heure, qui parlent du repos qui vient de Dieu. Et en même temps, il nous demande, dans ce passage en particulier, Jésus reproche à ses disciples quelque chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont endormis, qu'ils n'ont pas veillé. Et des fois, on se trompe de sujet, on se trompe plutôt de temps dans lesquels Dieu nous demande de veiller, alors qu'on s'endort, et on se trompe de moments où on devrait prendre du repos, et alors qu'on s'active plus qu'il ne faut, plus que le Seigneur lui-même nous demande. Vous comprenez la pensée? Et la question, elle se résume, le passage, la pensée de Dieu ce soir se résume à cette question. Pourquoi dors-tu? Quel est le motif de ce temps de repos que tu prends? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Parce que tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu. Et pour bien réaliser cela, il faut comprendre que Dieu, dans sa grâce infinie, parce qu'il nous aime, il permet qu'il y ait des temps de repos. Vous êtes d'accord? Il y a des temps quand même où le Seigneur nous permet de vivre dans du repos. Des temps où on n'a pas d'épreuve. Des temps où tout va bien. Il nous permet de connaître des temps comme ça. Mais il y a aussi ce qu'on a lu en tout premier, un sommeil qui conduit jusqu'à la mort. Et David, qui connaissait ces temps aussi, qui avait vécu certainement des périodes dans sa vie où c'était comme un sommeil de la mort qui est en train de l'attraper, de le lier, il a dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas de ce sommeil, mais qu'au contraire, je puisse faire ton œuvre. Et par la grâce de Dieu, nous connaissons celui qui délivre de ce sommeil. Et c'est dans ces trois aspects-là que nous verrons la pensée de Dieu ce soir. Premièrement, le sommeil, je vais appeler ça, vous allez bien comprendre, hein, le sommeil venant de Dieu. Le temps de repos venant de Dieu, si vous préférez, pour pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce qu'il y a du bienfait à dormir, par exemple, déjà physiquement parlant? C'est reconnu, si vous lisez des études scientifiques, et ils vous décriront exactement tout ce qui se passe pendant que nous dormons, alors que nous en avons totalement l'ignorance, puisqu'on n'est pas conscient quand on dort. Mais il y a toutes sortes de processus qui prennent place, des hormones, des machins, toutes sortes de choses qui se passent dans notre corps, et Dieu sait parfaitement ce qu'il se passe, parce que c'est lui qui nous a créés, mais nous, on n'est pas au courant. Mais on sait que c'est bon, et on sait qu'on passe un tiers de notre vie, pas les deux tiers, hein, surtout pas, un tiers de notre vie, à dormir, à peu près, hein, en moyenne. J'ai pris quelques exemples, mais par rapport à la mémoire. Pendant qu'on dort, on consolide notre mémoire. Notre cerveau est en meilleure forme quand on dort. Il garde sa forme. Et notre corps recharge les batteries, tout simplement. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il faut dormir. Prendre du temps pour se reposer, en tout cas. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pareil. Il y a des temps que Dieu permet pour que nous puissions être en repos. Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que nous avons besoin, certaines fois, d'avoir du repos dans nos âmes. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous donner plusieurs exemples que l'on trouve dans la parole, des expressions qui nous parlent du repos et qui sont des choses que Dieu lui-même a instituées. Premier exemple, qui est dans les 10 commandements, le jour du repos. Le sabbat, le jour du repos, qui fait partie de la liste des 10 commandements. Le pays de la promesse, il a un autre nom, si vous lisez dans le Deutéronome ou dans différents versets de l'Exode, il est dit le lieu du repos, l'endroit où le peuple d'Israël, qui était dans le désert, qui était dans tout cet endroit où il y avait des bêtes sauvages, des serpents, des scorpions, il avait en vue le pays où c'était le lieu du repos. C'est Dieu qui l'avait mené jusqu'à là-bas, qui voulait le mener jusqu'à là-bas. C'est Dieu lui-même qui l'appelait comme ça et qui lui promettait qu'il allait être en repos. D'ailleurs, si on lit les juges, on se rend compte que toutes les fois où ils ont commencé à obéir au Seigneur et à revenir à la parole de Dieu qui a eu un libérateur, qu'est-ce qu'il est dit? Le pays fut en repos pendant 40 ans, 20 ans, etc., 80 ans. Toutes les fois où ces hommes obéissaient à la parole de Dieu. Il est même donné un verset concernant le repos de la terre. Tous les 7 ans, le peuple d'Israël devait faire reposer la terre. Il est donné dans 1 Chronique 28, verset 2, je le lis pour vous. David lui-même avait à cœur quelque chose en particulier, de bâtir un temple. Et comment il appelait ce temple? Il appelait une maison de repos pour l'Arche de l'Alliance. Un endroit où Dieu allait faire reposer sa présence, particulièrement. Et alors qu'il n'a pas pu bâtir ce temple-là, Dieu a permis qu'il y ait un homme qui se lève. Dieu l'appelle cet homme un homme de repos aussi. Vous comprenez bien qu'avec tous ces repos, on croit que c'est la volonté de Dieu qu'on vive des temps de repos. C'est lui, Dieu lui-même qui a institué tout cela. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Dans les psaumes, il est question du repos de Dieu. Ils n'entreront pas. Ceux qui n'obéissent pas, ceux qui sont rebelles, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais il y a un repos pour les personnes qui choisissent d'obéir, justement. Et là, nous pourrions aller ensemble dans Hébreux qui exprime cette pensée de manière tellement forte. Hébreux chapitre 4 et le verset 9. Hébreux chapitre 4, verset 9, nous voyons qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9, il est dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On est d'accord ce soir pour dire qu'il y a le repos de Dieu, que Dieu nous demande certaines fois, certains temps, de vivre dans ce repos-là où notre âme, notre être tout entier peut être renouvelé, être rafraîchi, être touché, être béni comme la première fois et que nous repartons avec encore plus de force. Et à quoi sert ce repos exactement ? Est-ce que vous vous souvenez la première fois où quelqu'un s'est endormi dans la parole ? Par exemple. C'est donc dans la Genèse, hein, pour vous aider, mais la première fois. J'entends pas là d'ici, il faut parler plus fort. Hein. Adam, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il s'est endormi ? Voilà, il a pris la côte. Dieu a pris une partie d'Adam pour créer Ève. Regardez avec moi Genèse. On va le lire parce que les versets qui précèdent nous montrent pourquoi Dieu a fait cela. Dieu ne l'a pas fait pour faire plaisir à Adam seulement, parce que ça, bien sûr que ça a fait plaisir à Adam. Mais regardez, c'est au verset. Alors. Verset 18 du chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, waouh, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous avez vu au verset 18 ? C'est l'Éternel qui a vu que l'homme était seul et qui ne voulait pas que l'homme soit seul. Et pourquoi est-ce que Dieu permet certaines fois que nous soyons en repos ? Pourquoi Dieu permet certaines fois que nous soyons un peu dans un temps ou de calme pour justement nous susciter des personnes qui peuvent venir nous aider, pour justement nous montrer qu'il y a des choses qu'on peut essayer de faire par nous-mêmes, par nos efforts, par notre intelligence, mais il y a certaines choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Est-ce que l'homme a été participant dans cette affaire ? Il n'a rien fait, il s'est endormi. Il ne sait même pas ce que Dieu a fait, de quelle manière Dieu l'a fait. Il sait juste que quand il s'est réveillé, il y a eu une aide semblable, une personne avec qui il a pu faire équipe pendant toute sa vie et avec qui il a pu avoir des enfants, avec qui il a pu partager l'amour, il a pu avoir toutes ces choses, mais dans l'idée de la création de Ève. Il n'a rien fait de particulier à part s'endormir. D'ailleurs, il est même bien précisé que c'est l'Éternel qui a mis l'homme dans un sommeil profond. Il y a des sommeils, des moments dans nos vies qui sont des moments d'accalmie, on pourrait dire, où Dieu nous permet de vivre ces temps, mais pour que lui puisse agir. Et quand on sort de ces moments, on se rend compte qu'il a fait quelque chose que nous, on n'aurait pas pu faire. C'est ça exactement ce qu'il est dit. Vous êtes d'accord, hein? Et ce soir, on a besoin de comprendre que certaines fois, on a ce devoir d'abandonner notre capacité humaine, de mettre de côté nos efforts, de mettre de côté ces choses qui viennent de nous-mêmes et de réaliser qu'on a besoin de s'endormir dans cela. Pas d'endormir notre foi, ça on est tous d'accord, mais d'endormir nos raisonnements, d'endormir notre intelligence et de dire maintenant Seigneur, je dépose tout ça et par contre j'ai confiance en toi. Je crois que quand Adam s'est endormi, il était dans la confiance. Il savait que Dieu allait pourvoir, quels que soient ses besoins. Je crois que même Adam, il a pas eu besoin d'exprimer ce qu'il n'y avait pas dans son cœur, ce qui lui manquait. Dieu l'a vu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce soir, le Seigneur est capable de regarder vos cœurs, à chacun, mon cœur, et de dire, il n'est pas bon qu'il n'y ait que, peut-être, que de l'amour, mais pas de l'obéissance dans ce cœur. Il n'est pas bon qu'il n'y ait que de l'obéissance, mais pas d'amour. Il n'est pas bon qu'il n'y ait que de la joie. Vous comprenez? Il n'est pas bon qu'il manque quelque chose en nous. Et Dieu est capable d'y pourvoir. Mais il va le faire simplement si nous nous abandonnons au Seigneur. Si nous prenons une pause pour dire, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ce que moi, je ne peux pas faire ce soir. Viens à mon secours, viens me secourir. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, mais plutôt du sommeil qui amène à la vie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Dans le psaume 127, il est dit, c'est le cantique des degrés de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Pendant leur sommeil. Et là, ça nous montre que ces personnes dans ce monde s'évertuent à essayer de gagner toutes sortes de richesses, à dépenser peut-être leurs richesses dans les plaisirs, qui essayent de se procurer certaines choses pour remplir leur cœur, vont se retrouver un jour ou l'autre confrontés à cette réalité que tout est vain, tout est vanité, et le seul qui est capable de véritablement pourboire au bonheur de l'être humain, c'est le Seigneur, qui est capable de nous donner toutes ces choses, qui est capable de nous rendre heureux pendant qu'on dort. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer notre temps à dormir, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il faut faire confiance à Dieu. Ce verset, il est là pour nous dire ça. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. La personne ce soir qui peut-être ne connaît pas encore le Seigneur, qui a besoin du salut parce qu'elle est dans son péché, vous êtes d'accord? Elle a besoin de mettre de côté sa compréhension, son intelligence, elle a besoin de mettre de côté le fait qu'elle peut gagner, mériter le salut. C'est Dieu qui donne le salut. C'est Dieu qui sauve. Elle a besoin de prendre une pause, un temps de repos pour comprendre qu'elle est pécheur et qu'elle doit se repentir, se convertir et que, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, nous l'avons chanté, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. On comprend, on réalise qu'on est sauvé, on réalise que Dieu a descendu, a mis, chargé notre péché sur la personne de Jésus-Christ et qui nous permet maintenant d'être totalement libéré de notre péché, tout simplement. Nous avons besoin ce soir, pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons besoin de ce baptême. Amen. Nous en avons besoin. Et est-ce que c'est par nos efforts? Souvent, on confond l'obéissance et les efforts. Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, mais pas à ceux qui font des efforts parce qu'ils croient qu'ils vont mériter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit, autant que la vie éternelle, autant que le salut. Et par contre, Dieu ne va pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le recevoir. Ça, c'est sûr. Et nous avons besoin de prendre encore un temps, une pause, un temps béni dans la présence de Dieu, un temps de repos où nous pouvons chercher véritablement sa face, faire taire tous les bruits qui nous entourent et dire « Seigneur, viens me visiter maintenant, j'ai soif d'être rempli de ton Saint-Esprit. Je reconnais mon incapacité à te servir sans le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses une œuvre en moi, dans mon cœur. » Encore la semaine dernière, on avait un témoignage, une jeune fille qui a pris au mot ces paroles, qui a pris au mot ce désir du Seigneur de dire « celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le soir, le mardi soir, elle est sortie de la réunion, elle a dit « Je vais chercher vraiment le Seigneur. » Et puis le Seigneur, il n'a pas attendu 150 ans, il a baptisé dans son Saint-Esprit ce soir même. Et que son nom soit béni. Parce que le Seigneur, il sait si on a envie de recevoir ou pas. Et il sait, et quand il prend soin de ses enfants, le Seigneur, il le fait parfaitement. À quoi sert le repos de Dieu? À recevoir la provision divine selon notre besoin. Mais elle sert aussi, le repos de Dieu, il sert aussi à recevoir des promesses. Qui a reçu des promesses pendant qu'il dormait dans la parole aussi? Qui a reçu des songes dans lesquels Dieu a pu lui parler et par rapport à son avenir dans la parole de Dieu? Il y a Joseph, il y a Jacob, et il y en a plusieurs comme ça, hein, à qui Dieu a pu parler parce qu'ils avaient pris un temps de sommeil. Et il est dit dans la parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mais certaines fois, il parle par les songes. Même s'il faut rappeler que tous les rêves ne sont pas des songes de Dieu. Par contre, le Seigneur, certaines fois, parle par des songes. Dans Genèse chapitre 28 et le verset 16, Jacob, il est dit... Genèse chapitre 28 et le verset 16. Question justement de ce songe de Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Pendant qu'il dormait, il a eu un songe de Dieu et pendant ce songe, il a eu une révélation véritable. Il a compris quelque chose de plus de la part de Dieu. Il a compris qu'il pouvait avoir un accès à la personne de Dieu, que le Dieu de son père et de son grand-père, c'était aussi son Dieu. Il a compris ça pendant qu'il dormait, pendant qu'il avait un temps de repos. Et il y a des temps de repos qui viennent du Seigneur. Ça sert à recevoir aussi des promesses certaines fois. Et il y a certaines fois, on s'endort alors qu'on a un souci, on a un tracassé par une situation et on se réveille. Et bien le Seigneur, pendant la nuit, alors qu'on n'a rien fait, mais qu'on lui a fait simplement confiance, il nous a donné déjà la solution. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est souvent arrivé que je m'endorme dans une difficulté particulière et le matin, je me réveille, mais tout est clair. Parce que le Seigneur, il nous aide. Et Jacob a reçu une promesse. Mais le Seigneur désire aussi que nous puissions être renouvelés dans nos forces. Et dans Marc chapitre 6, nous voyons justement que Jésus s'adresse à ses disciples. Et c'est lui-même, cette fois-ci, alors que tout à l'heure il leur reprochait de ne pas veiller, il leur reprochait de prendre trop de repos. Dans ce passage, au contraire, il leur dit, venez, reposez-vous un peu. Marc chapitre 6, verset 31. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus avait tellement le souci de s'occuper de ses disciples, non seulement de les instruire, mais il avait aussi le souci de leur personne, qu'au moment où il les a sentis fatigués, peut-être moralement, peut-être simplement physiquement, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de manger, il leur a dit, venez, retirez-vous un peu à l'écart. Et le Seigneur aime que son peuple puisse avoir des temps de repos, où dans sa présence, nous puissions être rafraîchis, nous puissions être renouvelés dans nos forces, nous puissions être encouragés. Si nous sommes découragés dans notre cœur, nous puissions avoir à nouveau l'espoir qui germe, suscité simplement par la lecture de sa parole ou par un temps de communion particulière avec lui. Le Seigneur se plaît à bénir ses enfants. Le Seigneur se plaît à restaurer tous ceux qui ont besoin de restauration. Et ça se passe par des temps de repos que le Seigneur se plaît de créer, toute occasion favorable. Le Seigneur le fait peut-être dans cette soirée même. Quelqu'un est venu de manière... son cœur est découragé, son cœur est désespéré. Son cœur se sent incapable de supporter la situation qu'il vit. Le Seigneur veut vous donner un temps de repos où vous allez recevoir sa force, recevoir son courage, recevoir simplement sa vie. Est-ce que nous avons besoin de repos ce soir? Peut-être quelqu'un peut dire oui, moi j'en ai besoin. Peut-être quelqu'un a besoin de justement se prendre un temps à l'écart tout seul dans la présence de Dieu. Peut-être quelqu'un va dire moi je suis trop fatigué, j'ai besoin de la prière des frères et sœurs. Et tout cela, Dieu nous permet de le vivre parce que nous sommes privilégiés. Nous avons cette liberté de nous réunir, de nous rassembler, de faire connaître nos besoins les uns aux autres. Est-ce que nous sommes fatigués et chargés? Jésus a dit, je vous donnerai du repos. Est-ce que nous sommes découragés, épuisés? Jésus veut nous donner tout cela. La simple chose que nous devons faire, c'est de venir de tout notre cœur. Il y a ce sommeil, ce temps de repos plutôt qui vient de Dieu, mais il y a aussi le sommeil de la mort, celui auquel on ne doit pas résister, celui auquel on ne doit pas succomber, mais auquel on doit résister. Vous êtes d'accord? Le sommeil de la mort, comme son nom l'indique, on n'a pas envie de le vivre parce que c'est un sommeil qui commence doucement, mais qui nous conduit et qui a une conséquence grave, c'est-à-dire qui nous conduit jusque dans la mort. Je l'avais déjà apporté cette histoire, il y a une fleur dans l'Himalaya. Une fleur dans l'Himalaya dont le parfum plonge les gens dans un état d'inconscience. Et sa forme et sa couleur sont magnifiques. C'est quelque chose d'incroyable quand on la voit. On a envie de venir s'approcher et de respirer son parfum. Mais le problème, c'est que ça plonge les gens dans un état d'inconscience, dans une somnolence. Et petit à petit, ils s'endorment, les personnes. Et il y en a malheureusement qui sont mortes parce qu'elles sont restées trop longtemps au contact de ce parfum-là. Et la personne qui a découvert cette fleur pensait au début que c'était une fleur empoisonnée, tout simplement, que le parfum, il y avait une toxine à l'intérieur qui amenait du poison dans le corps et qui procurait la mort. Mais c'était simplement parce que ça endormait les gens. Et au bout de quelques jours, les gens, ils étaient endormis, ils ne pouvaient pas se nourrir, ils ne pouvaient pas boire, et ils mouraient de ces choses-là, la faim, la soif, tout simplement. Et le péché, c'est exactement ce qu'il fait dans le cœur. Péché, c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il nous endort doucement. Il y a des choses qui paraissent bonnes aux yeux de ce monde, mais qui, si on gratte un peu, on se rend compte qu'elles conduisent à la mort. Et voilà pourquoi nous devons dire, avec toute la sagesse que nous donne la parole, « Donne à mes yeux la clarté, Seigneur. Que ta parole brille dans mon cœur ce soir et que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Il y a des choses qui sont pas mauvaises en soi et qui peuvent devenir un péché parce que nous allons les faire passer devant Dieu, tout simplement. Mais Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas de ce sommeil-là. Il y a un exemple dans la parole d'un homme qui s'est endormi et dont la conséquence a été la mort, vous le connaissez tous. Un homme qui s'est endormi, il était sur le rebord de la fenêtre. Alors c'est sûr, ce n'est pas le meilleur endroit pour écouter une prédication. Parce que cette personne a trouvé que l'apôtre Paul y prêchait longtemps et à force peut-être de regarder à l'intérieur, de regarder au dehors et puis à la limite de ne pas suivre ce qui était dit, Eutychus s'est endormi et malheureusement, comme il était sur le rebord de la fenêtre, il est tombé du mauvais côté. Parce que toutes les fois où on s'endort du sommeil de la mort, on tombe du mauvais côté. On ne tombera jamais du bon côté dans le repos de Dieu. Ça, c'est sûr. On tombe du mauvais côté. Et cet homme, il est vraiment là pour exprimer de manière physique ce qui arrive quand on laisse un péché dans notre cœur et qu'on s'endort du sommeil de la mort. C'est la mort spirituelle qui arrive, forcément. Mais j'étudiais justement toutes les fois où des hommes se sont endormis dans la parole. Et on voit qu'il y a beaucoup d'exemples, mais des mauvais exemples, si vous voulez. Des mauvais exemples. Des gens qui se sont endormis et il y a des mauvaises choses qui leur sont arrivées quand ils se sont endormis. Premier exemple, Saül. Saül qui pourchassait David. David qui pourtant avait été déclaré le successeur à Saül parce qu'il était meilleur que lui, parce que Saül marchait dans la désobéissance. Saül, à un moment donné, avec son armée, il pourchassait David et puis ils se sont arrêtés dans un endroit. Et la Bible nous dit qu'ils se sont endormis. C'est même Dieu qui a permis qu'ils s'endorment d'un profond sommeil. Mais pendant qu'ils s'endormaient, qu'est-ce qui s'est passé? David est venu. Et David, lui, qui était plein de bonnes intentions, lui qui ne voulait pas avoir ce conflit avec le roi, et qui avait par contre des gars avec lui qui voulaient la mort du roi. Et pendant qu'il était là, David a choisi de prendre les armes, a choisi de prendre certaines choses qui appartenaient à Saül. Et pendant qu'il était là, les hommes lui disaient, « Mais vas-y, tue-le, l'Éternel le livre entre tes mains, c'est Dieu qui te conduit là pour le tuer. » David disait, « Non, 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 je ne toucherai pas à quelqu'un que Dieu a appelé, je ne toucherai pas. » Parce que David, il avait cette crainte de Dieu. Et par contre, on voit que Saül, alors qu'il a dormi, il a perdu ses armes. Et quelle image terrible! Je pensais à cette image, à la transposant de manière spirituelle, quelle image terrible de tous ces chrétiens qui dorment pour de mauvaises raisons, qui ne prennent pas le temps de repos que Dieu l'accorde, par contre qui dorment dans des endroits que Dieu leur demanderait de veiller et qui perdent leurs armes spirituelles. Qui perdent leur communion avec leur Seigneur, qui perdent leur capacité à résister, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas résister aux attaques de l'ennemi. Mais si on est en communion avec Dieu, si on s'évertue à être fortifié par sa force toute-puissante, alors là, on peut résister. Et combien, malheureusement, dorment parce qu'il y a eu différentes choses dans leur vie qu'ils ont laissé traîner, qu'ils n'ont pas réglées. Et le résultat pour Saül, ce qui se passe, c'est qu'il n'a plus de la protection de Dieu. Il n'a plus la protection de Dieu. Ça, c'est un des premiers aspects. Samson, est-ce qu'il n'a pas endormi lui aussi? Vous vous souvenez de l'histoire de Samson? Il a même été bercé par une dame qui s'appelle Dalila. Dalila qui l'a bercé. Et avant de le bercer, elle lui posait toujours la question, quel est le secret de ta force? Et Samson, il a dit une fois c'était ceci, une fois c'était cela. Et puis finalement, il a livré son cœur. Il a ouvert tout son cœur, mais à la mauvaise personne. Il aurait mieux fallu qu'il ouvre son cœur à Dieu, dans un temps de repos. Mais il a ouvert son cœur à une prostituée du camp des Philistins en plus, avec qui il vivait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a coupé ses cheveux et l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Il a perdu sa consécration simplement parce qu'il s'est endormi dans un mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive aussi quand on dort et qu'on laisse peut-être un compromis dans notre cœur et qu'on s'endort spirituellement? C'est petit à petit que ça se fait. Au début, on a l'impression qu'on va résister. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? Il pensait qu'il allait s'en tirer comme les autres fois. Et souvent, on a vécu des victoires dans le passé, on croit que ça va aller bien parce qu'on a vécu des victoires, et on oublie que c'est seulement la présence de Dieu dans notre vie qui nous accorde la victoire, simplement. Les disciples, le deuxième passage qu'on a lu, quand Jésus est venu leur reprocher, « Pourquoi dormez-vous » Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez un instant que les disciples n'aient pas dormi dans ce moment, mais qu'ils soient mis à prier de tout leur cœur, à persévérer dans la prière, à se réveiller d'un coup de coude s'il y avait besoin, en voyant leur voisin s'endormir, mais qu'ils soient vraiment unis dans la prière dans ces moments. Moi, je crois que s'ils avaient fait de tout leur cœur ces choses, ils n'auraient pas abandonné le Seigneur. Je crois qu'ils l'auraient suivi jusqu'au bout, presque même à aller se faire crucifier avec lui. Il y en a qui l'ont été après, d'ailleurs, hein. Mais je crois qu'ils auraient vécu des choses particulières avec le Seigneur. Mais le résultat de leur sommeil à ce moment-là où Jésus leur a dit pourtant « Veillez avec moi », le résultat c'est que tous l'ont abandonné. Il y en a même un qui l'a renié plusieurs fois parce qu'ils ont dormi au mauvais moment. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dormons-nous? C'est la question que Dieu nous pose ce soir. Et qu'est-ce qui nous endort? On a dit le péché de manière générale. Mais j'aimerais mettre des mots ce soir, comme ça a été le cas pour Saül, Samson et les disciples. Et on l'a lu, les disciples, pourquoi ils se sont endormis? Ils se sont endormis de tristesse. Ils étaient tellement tristes par rapport à la situation de savoir que leur sauveur allait être crucifié, allait être livré entre les mains des hommes méchants. Ils n'ont pas trouvé la force de veiller. Des fois, on est tellement abattu par l'épreuve qu'on oublie de tourner le regard vers celui qui peut nous sortir de l'épreuve. Samson, comme je l'ai dit, a choisi le compromis. Samson a choisi le monde en même temps que choisir Dieu. Il a voulu marcher sur les deux sentiers à la fois, mais ça ne marche pas. C'est impossible. La Bible nous dit qu'on ne peut choisir qu'un maître. On ne peut pas en servir deux. Saül, lui, il a choisi de marcher dans la désobéissance. Il a choisi de mettre sa volonté avant celle de Dieu. Saül avait pris l'habitude de faire ce qu'il voulait. Dieu lui demandait quelque chose. Samuel lui avait demandé quelque chose de la part de Dieu. Mais Saül, il s'est trouvé meilleur que Samuel. Il pensait qu'il fallait qu'il fasse ce que lui avait envie, même si c'était des sacrifices. Même si c'était, en plus, c'était des sacrifices pour Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui demandait. Et il a marché dans la désobéissance. Vous connaissez ces passages. Ce que Dieu lui a reproché, justement, c'est ça, la désobéissance de son cœur. Ces choses-là, ce sont des choses qui nous endorment. Quand j'ai un péché dans mon cœur que je chéris, que je cajole et que je ne veux pas m'occuper, sans que je m'en rende compte, je m'endors. C'est aussi simple que ça. Et ce soir, il y a tellement d'autres choses, je pourrais dresser une liste longue, mais ce n'est pas le but, de choses qui pourraient nous endormir. Est-ce qu'il n'y a pas la paresse des fois qui nous endort? Dieu nous demande d'être zélés, d'être fervents, et on est paresseux. Paresseux en plus pour ce qu'on veut. Parce que des fois, on trouve la force de faire certaines choses, et quand il s'agit d'obéir à ce que Dieu nous demande, on est totalement abattu. Est-ce que des fois, il n'y a pas la négligence, tout simplement? Dieu nous demande de faire des choses, on dit « oui, je vais le faire », et puis on ne le fait pas. Et ce sont des choses qui nous endorment. Ce sont des choses qui nous privent de la présence de Dieu, de sa approbation surtout, de ce moment où on sait que Dieu est favorable envers nous et on peut être béni dans sa présence. Et quand on laisse ces choses régner dans notre cœur, un danger nous guette, le sommeil de la mort. Je ne veux pas dire que dès l'instant où si on pêche qu'une fois, ça y est, tout de suite, on est endormi. Mais c'est quelque chose qui est progressif. Et si on ne s'occupe pas tout de suite du péché qui pourrait germer à un moment donné, eh bien, petit à petit, on va s'endormir. Voilà pourquoi il faut veiller, voilà pourquoi il faut prier, voilà pourquoi il faut venir dans la présence de Dieu. Et je voudrais finir avec cette pensée que, heureusement, Dieu ne nous a pas seulement dit qu'il y avait un sommeil de la mort, quelque chose qui était dangereux, il nous a donné aussi quelqu'un qui est capable de nous en sortir de ce sommeil de la mort si nous y sommes. Quelqu'un qui est capable de faire un miracle, parce qu'il faut un miracle pour nous en sortir. par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Un pécheur, par lui-même, ne peut pas se réveiller du sommeil de la mort. Il y a besoin de l'action du Saint-Esprit dans sa vie, du miracle de la présence de Dieu qui vienne parler à son cœur à un moment précis, peut-être pendant un message, peut-être dans une discussion avec quelqu'un, pour que cette personne puisse commencer à s'éveiller aux choses spirituelles. Et ce miracle, il a déjà eu lieu sur la croix. Jésus est mort sur la croix. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Et si quelqu'un ce soir est perdu et dans son péché, en mettant sa foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, vous pouvez être réveillé du sommeil de la mort. Et vous pouvez connaître un temps de bénédiction particulière. Simplement par la foi. Est-ce que c'est pas merveilleux? Simplement en se repentant de son péché, en demandant pardon et en croyant que Jésus a tout fait déjà. Ça, c'est le miracle de l'Éternel. Mais ce miracle, s'il a été fait il y a 2000 ans, il veut se manifester dans nos cœurs. Maintenant, c'est à nous de nous l'approprier tout simplement. Quelle parole Jésus nous adresse ce soir? Est-ce qu'il nous dit, peut-être qu'il dit à quelqu'un, reposez-vous un peu, viens prendre un temps dans ma présence de repos. Je vais amener, à toi qui es fatigué, chargé, je vais t'amener dans un temps de repos. Je vais t'amener dans un temps de tranquillité où tu vas découvrir que c'est par la foi que l'on est fort. Pourquoi dormez-vous, va-t-il dire à quelqu'un d'autre? Pourquoi dormez-vous? Est-ce que c'est un bon sommeil? Ou est-ce que plutôt c'est un sommeil parce que j'ai négligé certaines choses que Dieu me demandait de faire? Est-ce qu'on n'a pas ce soir simplement cette réalité que l'Église tout entière a besoin de se réveiller? Je crois que plus on va aller dans les temps de la fin, plus on va avoir besoin que l'Église se réveille. Et comment l'Église se réveille? L'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous. Et j'ai besoin, moi le premier, de me réveiller. Il y a des choses dans lesquelles j'ai besoin de progresser encore. J'ai des choses dans lesquelles j'ai besoin que Dieu, par un miracle de son esprit, puisse ouvrir mes yeux et mon cœur pour que je puisse comprendre ce qu'il me demande. C'était samedi, avec les jeunes, on lisait un passage dans Romains où il est dit, j'aime ce passage parce que je trouve qu'il est tellement présent, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous savez en quel temps nous sommes. Pourtant les Romains, on ne peut pas dire qu'ils étaient des mauvais chrétiens, mais juste avant, Paul leur parle de l'amour, comme quoi ils ont besoin d'aimer Dieu en tout premier. Et ils avaient besoin de se réveiller dans ce domaine-là en particulier de leur vie, de par rapport à l'amour qu'ils devaient avoir les uns pour les autres et surtout envers Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans notre vie où Dieu peut nous dire « Mais pourquoi dors-tu dans cet endroit-là? Pourquoi dors-tu dans ton amour? Pourquoi dors-tu dans ton courage? Pourquoi dors-tu dans ta paix? Pourquoi dors-tu dans ta joie? Je voudrais tellement que tu sois dans un temps de joie et tu es dans la tristesse. » Et la tristesse, c'est quelque chose qui t'endort, comme on l'a lu tout à l'heure. Quelle question nous pose le Seigneur ce soir? Est-ce qu'il nous dit, c'est l'heure de vous lever? C'est ce qu'il a dit à ses disciples quand il leur a reproché, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. D'autres passages disent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu savait ce qu'ils avaient besoin, les disciples. Dieu savait ce qu'ils allaient vivre par la suite. Dieu savait toutes choses. Et Jésus avait cette connaissance parce qu'il avait une communion avec Dieu incroyable. C'était son Fils, c'est quelque chose de magnifique. Ce soir, le Seigneur nous pose plusieurs questions. Maintenant, c'est à nous d'y répondre. Est-ce que nous voulons, par exemple, vivre ce temps de repos de sa part? Il y a vraiment quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la fatigue. Il a essayé de s'en sortir, de faire des efforts, de peut-être de lire la Bible, parce qu'on lui a dit de lire la Bible et il n'y comprend toujours rien. Le Seigneur veut t'apporter le repos de l'âme. Il veut t'apporter la paix du cœur. Il veut t'apporter l'assurance que tes péchés sont pardonnés, simplement par la foi en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on puisse se recueillir tout simplement. J'avais d'autres choses à dire, mais je crois que ça ne vaut pas la peine. Je crois que le Saint-Esprit a déjà parlé et je voudrais insister dans ces aspects-là. Qui ce soir est fatigué et chargé? Qui ce soir vit justement un temps de difficulté, un temps où il aurait justement besoin de se reposer? Et le Seigneur est tout prêt à lui donner du repos. Dieu a permis que dans sa parole, il y ait ce verset, cette parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Dieu veut nous donner le repos pour nos âmes, pour nos êtres intérieurs. Ce soir, quelqu'un a besoin de ce repos. Alors répondez à cet appel. Venez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je veux ton repos. Je comprends que ce soir, j'ai besoin de mettre ma foi en toi. Seigneur, je comprends que j'ai besoin d'avoir un temps de restauration. Je comprends que tu es celui qui est capable de me donner même des promesses. Tu vois que je suis agité. Je ne sais pas vers où aller, Seigneur. Tu es capable de me donner un temps où tu vas me parler par des promesses particulières. Ce soir, confiez-vous dans le Seigneur. Peut-être quelqu'un d'autre, le Seigneur vous pose cette question. Pourquoi dors-tu ? Pourquoi dors-tu ? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te lever. C'est le temps de prier. C'est le temps de trouver ta place dans la réunion de prière, peut-être. C'est le temps de trouver ta place dans la prière à la maison. C'est le temps de trouver ta place dans la prière en famille. C'est le temps de trouver ta place là où le Seigneur t'appelle, tout simplement. Le Seigneur appelle quelqu'un ce soir et lui dit : pourquoi dors-tu ? Pourquoi n'aimes-tu pas ton frère ? Réveille-toi, lève-toi et va te réconcilier avec ton frère. Pourquoi es-tu découragé ? Viens dans ma présence et sois fortifié. Pourquoi dors-tu ? Peut-être c'est par la tristesse, les épreuves qui s'accumulent les unes après les autres. Mais le Seigneur te dit : pourquoi dors-tu ? Lève-toi et viens dans ma présence. Je vais te bénir, je vais te secourir, je vais te réveiller, je vais te sauver du sommeil de la mort. Seigneur, par sa douce clarté, veut illuminer nos âmes ce soir. Par sa sainte parole, il veut briller de sa lumière dans nos cœurs, afin que nous puissions encore progresser dans sa présence.